Le rapport du groupe de travail sur le financement du système de santé a beaucoup agité la scène politique et médiatique cette semaine. Le groupe de travail dirigé par M. Claude Castonguet voulait notamment trouver les moyens d'ajuster les dépenses publiques de santé aux ressources consacrées au financement de la santé. Alors, je ne reviendrai pas maintenant sur les propositions du rapport, à l'endroit desquelles le ministre de la Santé n'a pas manifesté un enthousiasme débordant, disons. Je voudrais plutôt regarder l'un des grands déterminants de l'évolution des coûts de santé, l'innovation technologique. Et quand je parle de technologie, je pense bien sûr aux instruments, aux appareils, aux fournitures médicales, mais aussi aux médicaments. Deux chiffres d'ailleurs sur les médicaments, on les retrouve dans le rapport Castonguet. Ils comptent à eux seuls les médicaments pour 22% de toutes les dépenses de santé. Et puis ils coûtent presque deux fois plus cher que les médecins. Alors pour discuter de l'importance des technologies dans l'évolution des coûts de la santé et pour savoir si l'on sait comment maîtriser ces coûts, j'ai joint deux personnes qui sont très proches de ces dossiers. La première est Jean Cusson, médecin, pharmacologue, directeur du centre de recherche de l'hôpital Charles-Lemoyne près de Montréal, un hôpital affilié à l'université de Sherbrooke. Le docteur Cusson a présidé pendant 5 ans ce qui est devenu le Conseil du médicament du Québec. Il commence avec la question du coût des médicaments.
Depuis 5 à 10 ans, l'augmentation, on parle par exemple du budget du Québec réseau public passé de 1 à 3 milliards en quelques années. Mais ce dont les gens se doutent moins, c'est le coût assez extrême des nouvelles molécules qui présentent des développements vraiment. On parle de 15 000 à 150 000 $ et plus.
150 000 par année par patient, c'est ça?
Par année par patient. Il y en a même un là qui est présentement à 600 000 $ par année par patient.
Mais bon, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut expliquer un coût comme ça?
Bien, ce que les compagnies pharmaceutiques disent pour les médicaments qui touchent des patients avec des maladies rares, c'est qu'ils doivent rentabiliser le développement de la recherche et il y a très peu de marché, disons, dans les maladies dont on va dire qu'ils sont orphelines, maladies génétiques. Mais pour beaucoup de médicaments, c'est pas vraiment des maladies orphelines. Je vais prendre l'exemple de l'arthrite rhumatoïde qui touche 1% de la population et les médicaments développés depuis 10 ans ont un prix de lancement à 16 000 $ par année par patient. Dans le sida, on était habitué à 3 000 $ par année par patient. La trithérapie, environ 10 000. Et la sclérose en plaques, c'est autour de 20 000 $ par année par patient. Mmh. Fibrose kystique, la même chose. Donc, pour plusieurs maladies qui touchent passablement de monde, on est rendu dans les 10 à 20 000. Et je parle même pas du cancer, où on est dans les 10 à 60 000 $ par cycle de thérapie qui peuvent durer parfois 6 mois.
Mais on va vous dire que ce sont des médicaments qui sont meilleurs quand même, qui sont plus efficaces et qui peut-être même évitent des coûts d'hospitalisation ou de complications de maladie, non?
Ça plaît à l'esprit de penser ça, mais lorsqu'on regarde les évidences scientifiques, souvent c'est plus mitigé que ça. En oncologie, c'est pas toutes les nouvelles molécules qui amènent des améliorations vraiment significatives. Et là, on peut chicaner sur qu'est-ce qu'on veut dire par significatif.
Oui.
Par exemple, une amélioration de la survie de 2 mois sur une base de 6 mois. Est-ce que allonger la vie de 2 mois, ça peut vouloir dire un traitement de 60 000 $ par patient, par exemple? Dans la sclérose en plaques, dans l'arthrite rhumatoïde, les améliorations sont quand même plutôt mitigées. Ça donne beaucoup d'espoir aux patients. Mais les améliorations, objectivement, quand on regarde les vraies données, sont plutôt mitigées et on peut se questionner sur qu'est-ce qu'on a pour notre argent, la justesse du prix. Mm-hmm. Et beaucoup de gens pensent que le coût des médicaments est approuvé, ni plus ni moins, par Santé Canada, par exemple.
Oui.
Et alors que c'est pas le cas du tout, hein. Santé Canada approuve les médicaments sur la base de leur efficacité et sécurité.
Indépendamment de leur prix, hein.
Exactement. Il y a un petit comité qui regarde par la suite si le prix de ces innovations ne dépasse pas les prix dans d'autres pays. Mais jamais dans le mandat de ces comités-là, on regarde si le prix en vaut la chandelle au niveau du bénéfice scientifique.
Vous êtes très, très sévère, justement. Pourtant, on dit, bon, il y a une discipline qui se développe, qui est la médecine fondée sur des preuves, evidence-based medicine. Donc, on devrait avoir des moyens objectifs de voir si un médicament est bon, important, nouveau et fait quelque chose de différent, non?
Oui, mais écoutez, le problème, c'est que pour plusieurs maladies, les découvertes sont nouvelles et on apporte un petit changement. On parle beaucoup d'espoir de bénéfices plus que de preuves de bénéfices. Et dans beaucoup de situations, moi, personnellement, je trouve que plus la situation est émotivement importante. On parle encore une fois de sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, des maladies que personne ne veut avoir. Lorsque les médicaments sortent pour ces maladies-là, elles ont toujours un prix curieusement très élevé. Et mon hypothèse, c'est qu'il serait difficile, par exemple, pour des gouvernements de retenir l'entrée de ces médicaments-là.
Mmh, parce qu'il y a de l'émotion dans le public. Hein?
Oui, et puis ensuite, les États-Unis, juste à côté, si le Canada, par exemple, freinait l'entrée jusqu'à temps qu'on ait suffisamment de données pour juger de la valeur du produit relativement au prix, il faudrait que les États-Unis le fassent aussi. Sinon, il y aurait des délais qui seraient difficiles à politiquement supporter.
Et on critiquerait, etc. Et donc, c'est pas de la médecine fondée sur des preuves.
Non, moi, j'appelle ça un peu la médecine fondée sur les émotions, emotion-based medicine, mais ce terme-là vient d'un britanno-colombien, un pharmacologue, qui avait donné ce nom-là il y a 20 ans déjà. Et je pense que l'industrie pharmaceutique, la presse, beaucoup de gens utilisent cette émotion-là, et les politiciens qui sont pris des décisions difficiles, budgétaires, peuvent être mal pris politiquement pour dire ben on freine l'entrée d'un médicament sur la base du prix.
Oui.
Argument qui n'est peut-être pas intéressant à défendre. Là.
Exactement. Alors, j'allais vous poser la question, est-ce que vous, les universitaires, les spécialistes en pharmacologie, en pharmacoéconomie, hein, c'est une discipline qui s'est développée, est-ce que vous connaissez je ne parle pas des décisions politiques, mais des moyens pour contrôler cette inflation permanente du coût des médicaments?
Ben, c'est pas évident. Je veux dire, au Canada, il y a quand même plusieurs experts et comités d'experts qui regardent vraiment fondés sur les évidences et qui ont qui utilisent des outils pour évaluer la proportion entre l'amélioration prédite sur le plan de la santé et le différentiel de coût par année, par patient, par exemple, d'un médicament.
Mm-hmm.
Et faut comprendre que c'est un peu arbitraire qui pourrait dire que, disons, 50 000 $ par année de vie par patient est correct ou 100 000 ou 200 000. Donc, il y a un peu d'arbitraire là-dedans. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que le médicament a été approuvé par Santé Canada et les comités d'experts n'ont pas un mot à dire là-dessus. Il est déjà approuvé. Donc, et le prix de lancement est un prix béton. Il n'y a pas vraiment moyen pour les comités pourraient recommander de ne pas le mettre sur le formulaire ou de ne pas les rembourser parce que les données sont insuffisantes, ce qu'ils font des fois. Mais habituellement, quand il y a un refus comme ça, je peux vous dire que il y a beaucoup de pression par la suite pour essayer de modifier ces décisions-là.
J'ose bien l'imaginer, vous avez dû le vivre quand vous étiez président du Conseil du médicament. Hein?
Il y avait déjà des pressions il y a 10 ans et qui étaient évidentes. Et aujourd'hui, je vois rien qui annonce que la situation va changer, sinon s'aggraver à cause du coût plus important des médicaments et de la situation budgétaire qui n'est pas plus reluisante.
Donc, en un mot et en conclusion, Dr Cusson, vous ne voyez pas beaucoup de changements et donc le poids du coût des médicaments va continuer à augmenter dans le paysage des coûts de la santé?
Oui, c'est très clair. Et l'amélioration que ces médicaments-là produisent, il y en a une certaine, mais elle ne fera pas beaucoup gruger ou rétrécir les dépenses en santé là à court terme, je pense pas. Et ceux qui pensent que la solution dont on entend parler beaucoup ces temps-ci du privé peut juguler ça, je pense qu'il faudrait qu'ils regardent dans différents pays où il y a de l'assurance privée pour voir quel genre de prime vraiment ils payent annuellement.
Exactement.
Dans certains pays, on paye un tiers du salaire annuel en prime de santé, justement pour se payer ces médicaments-là, etc.
Le docteur Jean Cusson est médecin et pharmacologue. Il dirige le centre de recherche de l'hôpital Charles Lemoine, près de Montréal. Et je passe à ma seconde invitée, Pascal Lehoux, qui est professeur au département d'administration de la santé de l'Université de Montréal. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les innovations en santé. Madame Lehoux a aussi été chercheur à l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Je lui ai d'abord demandé si l'on peut chiffrer l'impact des technologies sur les coûts du système.
Il y a des études très générales qui regardent l'évolution à travers plusieurs décennies, puis la réponse qui est relativement peu contestée, c'est qu'il y a une pression inflationniste. Certaines études estimaient que jusqu'à 70 % des coûts pouvaient être attribués au développement technologique. Ça, c'est quand on a une vision très macro. Ensuite, il y a des études plus micro qui portent, par exemple, sur une technologie à la fois ou une procédure. Par exemple, est-ce que la chirurgie d'un jour réduit ou augmente les dépenses? Puis quand on se concentre sur une technologie à la fois, bien là, on a à la fois des réponses qui vont dans un sens positif ou négatif. Puis c'est là où ça se complique. Il y a des technologies qui nous permettent de sauver certaines dépenses dans le système et d'autres qui vont les accroître de façon assez fulgurante.
Et on se demande comment faire la part des choses entre, pour le dire peut-être un peu vulgairement, entre le gadget et la véritable innovation. Est-ce qu'on peut faire la part des choses? Est-ce que des organismes de surveillance comme l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, vous avez collaboré à cette agence-là, est-ce qu'il y a des moyens de le faire, de faire la part des choses?
Mais c'est clair que depuis 15-20 ans, la majorité des pays industrialisés se sont dotés d'agences d'évaluation des technologies. Ça a été la réponse politique la plus forte et la plus prégnante des dernières décennies. Puis le but, c'était d'évaluer pas juste l'efficacité, mais évidemment les coûts, puis parfois aussi certaines implications sociales, éthiques ou juridiques.
Et ces agences-là, effectivement, sont efficaces elles-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, c'est des agences qui font quelque chose d'important?
Elles se sont nettement améliorées avec le temps. Il y en a qui deviennent beaucoup plus incisives. Une des questions qui est toujours controversée, c'est jusqu'à quel point ces agences-là devraient faire des recommandations de nature politique. Plusieurs agences ont une culture scientifique qui va plutôt tenter de déterminer est-ce qu'on a ce qu'on appelle des données probantes.
Oui.
Est-ce qu'on a des données probantes pour nous dire que cette technologie-là est efficace et donc devrait être utilisée. Donc, l'approche scientifique laisse parfois le champ assez large pour le gouvernement ou les détenteurs d'enjeux pour déterminer de quelle façon on va utiliser le rapport ou non.
Mais est-ce que c'est un domaine où les scientifiques ont l'oreille des gouvernants, des ministres de la Santé, des premiers ministres, des gens qui sont dans la politique?
Ouais, toute la complexité, elle est là. Je vous dirais que oui, il y a des ministères qui sont extrêmement à l'écoute de ces scientifiques-là. Puis sans être trop ironique, surtout quand ça leur donne un peu de munitions pour ralentir les dépenses. Si les rapports concluent qu'il faut investir davantage, ben là, on est dans une situation inconfortable. La même chose peut être dite du côté des cliniciens. Les cliniciens vont être à l'écoute de ces scientifiques-là quand, finalement, les rapports débouchent sur des conclusions plus positives.
Est-ce qu'il y a des exemples d'innovation qui sont arrivées dans le domaine de la santé, qui coûtent très cher et qui sont finalement peut-être pas si utile que ça?
Pas si utile, c'est toujours parce que le gain marginal le gain est perçu marginal quand on le compare à d'autres secteurs dans lesquels on devrait investir, par exemple en santé publique ou par exemple dans les soins à domicile ou par exemple encore même dans une autre catégorie de dépenses qui serait les ressources humaines. Est-ce qu'on a assez de conseillers génétiques, par exemple, pour pouvoir diffuser des tests génétiques?
C'est ça. Donc, c'est toujours une question d'appréciation, finalement, d'appréciation politique.
Oui. Toujours, pour revenir un peu à la question initiale, il y a des technologies où on est limité par l'impact budgétaire, mais qui sont efficaces. Si on prend l'exemple des dispositifs d'assistance ventriculaire gauche, là, des pompes cardiaques qui rétablissent les fonctions sur une base temporaire, ça, c'en est une technologie qui est dite efficace, trouvée efficace, mais qui a tellement une incidence importante sur les coûts que ça nous obligerait à fermer plusieurs autres services dans un hôpital. Donc, ça, c'est un exemple d'une technologie efficace qu'on peut...
Mais trop cher, au fond.
Trop cher, ouais. Il y a probablement l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a des technologies qui sont efficaces et peu coûteuses et qu'on n'utilise pas parce qu'on réalloue pas les ressources en conséquence.
Donc, on est, d'une certaine façon, et en conclusion, Mme Lehoux, on est comme condamné au progrès technologique et à payer la facture du progrès en question?
Non, je crois pas.
Non?
Non, ma vision est plus optimiste. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les pressions sur les systèmes de soins, elles sont pas uniques au système public. Hein. L'ensemble des systèmes privés sont tout aussi concernés et font autant de contrôle des coûts. Donc, on peut se dire que si l'innovation des 15-20 dernières années était beaucoup alimentée par la capacité de payer, là, les manufacturiers et l'industrie doivent se raviser puis commencer à réfléchir sur des technologies qui, elles, vont être moins coûteuses, plus faciles d'usage et plus généralisables aussi dans plusieurs contextes de soins. Donc, je pense qu'il y a un message fort qui est aussi donné du côté de l'industrie à faire des technologies qui sont plus ingénieuses puis qui, elles, pourront être adoptées et utilisées sans qu'il y ait des pressions fortes sur la croissance des coûts.
Pascale Lehoux est professeure au département d'administration de la santé de l'Université de Montréal et elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les innovations en santé.